Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Le grand oral des grandes gueules.
Le grand oral de Richard Malka. Bonjour Richard, l'avocat de Mila. Le procès est terminé, le jugement a été rendu hier. 4 à 6 mois de prison avec sursis pour 11 des 13 garçons et filles qui étaient jugés pour avoir harcelé Mila. Du sursis, c'est suffisant?
Bien sûr que c'est suffisant. Ils avaient tous des casiers vierges, ils avaient entre 18, 22, 23 ans, ils commençaient leur vie active ou leurs études. Vous savez, on demande la justice, pas la vengeance. Mila, elle en veut, elle ne veut de mal à personne. Elle avait simplement besoin de ressentir que la justice était à ses côtés, la soutenait, la protégeait. Et la justice, cette institution souvent décriée, a été à la hauteur de ce défi, a répondu présent. Il y a eu 2 journées d'audience, 13 heures d'audience chaque jour. Il y a eu des perquisitions, des gardes à vue, des comparutions devant le tribunal, des peines avec en présence des caméras. Des peines avec sursis, 2 500 € de dommages et intérêts pour chacun, ce sera inscrit à leur casier judiciaire. C'est pas rien, c'est important. Le message, je crois, est passé. Il y a des désagréments. Quand on harcèle, quand on menace de mort, il peut vous arriver cela. Des policiers qui débarquent chez vous à 6 heures du matin. On le sait aujourd'hui. Et si ça suffit pas, alors il faudra que les peines soient plus importantes.
Parce que
pour une première, honnêtement, c'est la mission est remplie.
Richard, je vous pose la question parce que pendant le procès, Mila continuait à être harcelé, menacé de mort par d'autres personnes. Donc l'effet dissuasif du procès, finalement, est-ce qu'il existe vraiment?
Et vous savez, la justice juge au cas par cas. Là, on a jugé ces personnes-là. Je rappelle que précédemment, un des harceleurs de Mila était condamné à 3 ans de prison ferme, 3 ans de prison dont 18 mois ferme avec mandat de dépôt, parce que son profil était beaucoup plus inquiétant, qu'il venait de sortir de prison, qu'il avait déjà un casier important. Donc c'est au cas par cas. Et ceux qui ont menacé Mila pendant l'audience, eh ben je leur dis à votre micro, il y a des enquêtes en cours contre vous. Et la justice n'aime pas beaucoup ça. Et les procureurs non plus.
Pourquoi elle n'aime pas beaucoup ça?
Continuer à menacer en plein procès, c'est vraiment un défi lancé à la face de la
justice.
Ceux-là seront poursuivis et peut-être que les peines seront plus importantes encore.
Pourquoi ont-ils été, je vous donne la parole, mais j'ai une question factuelle, pourquoi ont-ils été condamnés pour harcèlement en ligne et non menace de mort?
Alors, là c'est une question technique, mais vous avez raison parce que c'est moins perceptible pour le grand public, les questions techniques, mais les enjeux étaient considérables. Dans un premier temps, le tribunal a écarté les QPC, c'est-à-dire qu'elle a reconnu la validité constitutionnelle de la loi Chiappa. Le tribunal a retenu par ailleurs, et c'était extrêmement important, une définition large du harcèlement, c'est-à-dire que tout message publié, et il suffit d'un seul message, et à partir du moment où il est publié, même s'il n'est pas adressé à son destinataire, si vous ne mettez pas le hashtag devant Mila, eh bien ça peut constituer un harcèlement. Mais la justice a aussi considéré que le même fait, le même message, ne pouvait pas constituer 2 infractions. Le harcèlement et la menace de mort, donc elle a choisi une infraction. Et symboliquement, c'était le procès du harcèlement en ligne.
Étienne Liebig.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que il y a quelque chose, alors j'utilise pas le mot jurisprudence parce que ce serait excessif en l'occurrence, mais est-ce que vous avez l'impression que là il y a eu un certain point de marqué par rapport à quelque chose qui on a l'impression qu'on court après un phénomène qui est au-delà d'un phénomène Mila, qui est très grave, mais qui est devant un phénomène social qui se répand de façon exponentielle, et on a l'impression que la justice court après. Est-ce que cette justice a la conscience du tonneau des Danaïdes que ça représente?
Mais c'est pas à la justice d'en avoir conscience, c'est à nous tous. La justice a été au rendez-vous. Elle fait ce qu'elle peut. Alors évidemment, ça prend du temps, il faut des enquêtes, on est dans un état de droit, il y a des droits de la défense à respecter. il faut d'abord voter des lois, ce qui a été fait en 2018, c'est la loi Schiappa. Donc, nous, on va lentement, le politique va lentement, la justice va lentement, mais c'est normal, on va pas voter des lois en deux heures non plus. La technique est beaucoup plus rapide. Donc, il faut du temps pour rattraper ça, pour réguler Internet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est notre problème à tous. C'est pas simplement la justice qui va régler ce problème de société. C'est les parents, c'est bien l'école, sûr. C'est toutes les autres institutions, et puis c'est la régulation des réseaux sociaux.
Voilà.
Et là, il y a des efforts à faire du côté des réseaux sociaux aussi.
Benjamin Cauchy.
Donc juste si la personne qui a insulté, si les personnes qui ont insulté Mila par exemple habitent en Italie ou en Espagne.
Et elles habitent plutôt en Afrique pour le coup. Il y en a beaucoup. Et il y a eu des enquêtes qui ont été menées et à chaque fois, on bute parce que ces personnes-là habitent, ailleurs. D'accord. Oui, bien
d'accord,
sûr.
Okay.
Benjamin Cauchy.
Oui, c'est vrai que dans cette affaire. Dramatique et terrible pour Mila. Il y a des masques qui sont tombés. Il y a le masque du harcèlement en ligne et vous venez d'en parler. Il y a aussi les silences, les profonds silences qui ont beaucoup choqué. Et je pense notamment à certains féministes, à certaines féministes, associations féministes qui d'habitude sont toujours les premières à juste titre pour défendre toute agression, tout mal qui est fait à la femme avec un grand F de manière générale dans notre société. Et à part des collectifs comme Némésis ou autres, j'ai été plutôt surpris du silence bruyant, du silence assourdissant des féministes dans cette histoire.
Comment vous l'expliquez, Richard Malka?
Alors
et des élus politiques aussi dans un premier temps, même si ça a un peu changé maintenant.
Une sorte de malaise par rapport au sujet.
Vous avez raison, ce silence, je l'ai dénoncé au tout début de cette affaire et je n'ai cessé de le dénoncer. Il a participé à la meute. En fait, la meute va là où on lui dit d'aller. Et si on lui dit de ne pas y aller, elle n'y va pas, parce que c'est très complètement moutonnier. C'est ça qu'on a aperçu aussi pendant ces journées d'audience. Donc s'il y avait eu plus de réactions de ces associations féministes, LGBT, d'hommes politiques, pour dire non, ça c'est pas possible, c'est la victime, elle. Vous ne devez pas, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes hommes et ces jeunes filles, ils agissent en pensant faire le bien.
C'est ça.
C'est ça qui est
bien.
Ils sont dans le camp du bien. C'est pour ça qu'ils se permettent de vouloir faire crever, broyer le crâne.
Ils veulent défendre leur religion. Ils disent
non, c'est même pas leur religion. Parce que pour le coup, enfin, c'est leur religion, mais ça, la plupart n'étaient pas musulmans.
Ouais,
mais c'est le respect. Ils savent même pas ce que ça veut dire. On peut pas respecter quelque chose qu'on ne connaît pas.
Oui.
Et puis surtout, c'est en fait, au nom du respect, ils lynchent.
Oui, c'est ça.
Ça illustre.
C'est le grand paradoxe.
Mais ça illustre ce que je plaide depuis maintenant longtemps. Cette doctrine du respect des religions, elle arrive à ça. On a toujours lynché, lapidé, brûlé des femmes au nom de la religion et au nom de. On est du côté de la morale. On respecte pas de manière obligatoire. Ça s'étudie une religion. Ça s'interprète, ça se commente, ça s'analyse. On en rejette des parties, on s'en inspire d'autres parties. Mais c'est comme le capitalisme ou le marxisme. On respecte pas. On discute, on dialogue avec.
Oui.
C'est une idéologie folle. Moi, je dis aux jeunes générations, on est dans une république. La religion n'est pas sacrée. Ça ne relève pas du domaine du sacré dans une république.
Oui, mais Richard,
c'est pas intouchable. Et si vous pensez que c'est intouchable, si vous continuez avec cette doctrine folle du respect, un jour, vous allez vous réveiller et vous aurez créé les conditions de votre propre malheur.
Mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens et de jeunes dire, oui, bien sûr, Mila, c'est pas bien la menacer de mort, mais en même temps, elle aurait pas dû dire ça.
Non, mais ils la condamnent tous, ils la condamnent tous. À 80%, cette génération la condamne.
Bah oui.
Ça, c'est la triste réalité.
Bah oui.
Eh ben oui, eh ben c'est aussi parce que ces associations féministes LGBT, alors il y en a qui l'ont soutenue depuis, mais il y en a même qui sont fiers, je pense en particulier à une féministe, de revendiquer une pseudo-féministe qu'elle n'est pas Mila.
Oui, c'est ça.
Et à l'argumenter. En même temps, il y a des belles choses qui sont arrivées.
Oui.
Je pense à un communiqué du CRAN. C'était courageux de leur part, prenant très fermement position pour Mila. Je pense à Monsieur Roussel, du Parti communiste, qui a pris très courageusement position en sa faveur. Les lignes bougent.
Oui, quand même.
Il y a une prise de conscience. Mais je suis inquiet de la transmission, de l'absence de transmission de nos valeurs républicaines effectuées auprès des jeunes générations.
Les jeunes n'ont pas soutenu Mila.
Est-ce que c'était pas deux mondes un peu qui se... Parce que ce truc entre gamin? Parce que là, j'ai entendu un peu ce que des jeunes rapportaient. Alors, est-ce qu'ils mentaient? Est-ce qu'ils disaient la vérité? On n'avait pas l'impression de commettre un acte grave dans la mesure où c'était un... On avait l'impression que c'était un peu un truc entre gamins. Je mets entre guillemets, parce qu'il y a quand même des gens qui avaient 18 ans dans l'affaire à l'époque. Un truc entre gamins, comme ça se passe tous les jours sur les réseaux. C'est-à-dire, on harcèle une copine, on l'insulte, on harcèle un mec, on lui dit t'es gros, t'es moche, t'es petit, etc. C'est-à-dire que ça rentre un peu dans le truc du commun, et ça, on l'a ressenti très fort.
Bah, très fort. Mais c'est comme si les mots n'avaient plus de sens.
C'est ça.
Parce que y a
mais est-ce que c'est pas générationnel et qu'on n'est pas à côté de la plaque?
Oui, mais c'est complètement fou. Mais parce que vous avez des gens qui écrivent, mais qu'on lui broie le crâne par pitié, et quand elle est devant le président du tribunal, elle dit non, moi je pensais pas que c'était méchant, quoi. C'est comme ça, quoi. Cette espèce, on écrit ça. Et le pire, c'est qu'ils ne savent même pas à quoi. Quels étaient les propos de Mila?
C'est
en
ça.
Fait, ils ne s'informent même plus.
Ils participent à la
meute. Que vous, les journalistes, alors à la radio, tout ça, ça n'existe plus. Leur seule source d'information, c'est même pas Wikipédia, parce qu'au moins, ce serait il y aurait quelques informations. C'est les TT, c'est les top tweets. Oui, donc on regarde quatre mots. Et puis, on va même pas vérifier. On invente des propos et on réagit à des propos qui n'ont pas été tenus.
Oui, mais du coup, ça a bousillé sa vie quand même. Elle, les conséquences, elles sont là.
Oui,
Schrein.
Oui, ça me fait quelque chose de vous voir effectivement sur le plateau du Grand Oral des Grandes Gueules, parce que c'est malheureusement un sujet que je connais extrêmement bien. La différence d'être chasseur, d'être rural, aujourd'hui quelque chose qui entraîne beaucoup de violence. Je suis, à titre personnel, dans une spirale juridique aujourd'hui, puisque j'amène des dizaines de personnes aussi au tribunal pour harcèlement. J'ai eu le choix à faire comme vous, une partie menace de mort, une partie harcèlement. C'est deux choses qu'il faut dissocier. Il faudra d'ailleurs régler ce problème à un moment, parce que c'est pas tout à fait normal. Et tout ce que vous dites, maître, on a la même chose. J'ai des gens devant moi qui ne comprennent pas la gravité de leur acte. Ce que vous dites aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de ce qui a réellement été dit, ils s'en foutent, ils passent au-dessus. Voilà, il y a cet esprit de meute extrêmement primaire qui ressort, on se jette sur quelqu'un, et la plupart ne savaient même plus pourquoi ou ne savaient même pas pourquoi. Voilà. À un moment, tu dis une phrase, ça peut être une histoire de chat errant, en ce qui me concerne, et à la fin, deux, trois lanceurs d'alerte, d'ailleurs, extrêmement bien positionnés, qui disent, attention, ce mec-là veut tuer vos chats, il fait déjà un premier raccourci, personne.
Oui, donc il y a
va.
Des gens quand même qui manipulent.
Ah, mais il y a des gens qui manipulent.
Il y a de la meute, mais il y a aussi des gens qui manipulent.
En ce qui me concerne, c'est des journalistes, d'ailleurs, on fait un raccourci et on balance. Et après, c'est fini, tu ne retiens plus rien, tu n'arrêtes plus rien. Moi, je trouve, alors, j'entends ce que vous dites, 4 à 6 mois avec sursis, c'est un premier pas, et vous avez raison. Je pense pas que c'est ce qui arrêtera les choses. Il faudra effectivement durcir beaucoup les peines, et c'est la seule solution.
Richard Malka,
est-ce qu'il faut
crois la dissuasion, parce que moi je sais ce que j'ai vécu, je vis toujours.
Oui, mais
voilà, comme Mila, je suis pas comme Mila, mais voilà, j'ai une maison qui aujourd'hui sous les forces de l'ordre. Hein, voilà, je suis sous surveillance en permanence. Je devrais me déplacer partout où je vais avec un garde du corps d'ailleurs. On me le conseille vivement tous les deux semaines.
Je rappellerai que Thomas Porcher ici.
Tout ça pour avoir dit juste une chose. Avoir dit à un moment, les chats errants sont des chats qui mangent effectivement les oiseaux et qui posent un problème à la biodiversité. Raccourci fait, je suis un tueur de chats. Je serai devant une grande main dans votre jardin, tu es un chat.
Je pense pas du tout comme lui.
Oui, mais c'est quand même comme ça.
Je prends un autre exemple, Thomas Porcher.
Là, on va même pas rigoler deux secondes, parce que c'est ce que je vis tous les jours. Il y a des cons quand même qui sont comme ça. Et moi, c'est des milliers de menaces des morts. Pas encore.
Les amoureux des chats, c'est spécial.
Oui, il y a pas que les amoureux des chats. Après, il y a les animalistes et puis les écologistes, les antispécistes. Donc on fait un amalgame vite fait. Bref, pour revenir au sujet du jour, qui est le plus important.
Donc des peines plus fortes. Je pense Thomas Porcher, simplement, je vais citer le cas de Thomas Porcher, qui est grande gueule, prof d'éco, qui a dit il faudrait peut-être que pour les non vaccinés, la vie soit un peu plus dure pour les inciter. Et depuis, qui est menacé de mort quand même, menacé de mort directement, et on porte plainte.
Oui, mais c'est un phénomène qui est général. Ça ne porte pas que sur l'islam. Oui. Ça porte sur tous les sujets. Vous n'êtes pas d'accord, vous menacez de mort.
Vous flinguez.
Ou alors c'est suicide-toi. C'est le mot à la mode sur Twitter. Mmh. Alors là, il y a quand même aussi une vraie responsabilité de Twitter. Voilà. Et il y a deux jours, un procès où enfin on leur demande des comptes.
Oui.
On sacrifie des générations. Mais c'est pas que Twitter. C'est l'outil de Twitter. Y a aussi quand même derrière, je suis désolé, mais à 18 ans ou à 20 ans, on n'est plus irresponsable, quoi.
Bien sûr que
on
non.
peut un peu réfléchir. Moi, je n'ai jamais menacé de mort quelqu'un dans ma vie.
Oui.
Mais même si on m'insulte, ça me viendrait pas à l'idée, quoi.
C'est quoi? Il y a une question d'éducation,
c'est le mot qui a perdu de sa valeur, peut-être.
Non, mais Richard, c'est pas seulement une question de alors, les réseaux sociaux, bien sûr, qui favorisent la meute. Mais enfin, il y a une question d'éducation aussi.
Génération.
Mais pas forcément de génération. Parce que les menaces de mort, Willy Schrein, je pense que c'est pas que les jeunes qui le menacent. Thomas Porcher, c'est pas que les jeunes qui le menacent de mort.
Moi non plus.
Il y a pas une question d'éducation dans notre monde d'aujourd'hui.
Du cadre.
Il y a une grande violence. Oui, ça c'est certain. Ça a été amplifié par les moyens numériques. C'est amplifié par tout un tas de raisons sociétales. Mais oui, on sent la violence et elle se retrouve. Décuplé dans les mais en termes de mots, mais les mots, ça reste pas que des mots. Hein.
À un
moment, ça se transforme en acte. Parce qu'il y a toujours des faibles d'esprit qui les prennent au premier degré. C'est pas rien.
C'est ça le problème.
Mais oui, Samuel Paty, c'est ça.
Oui,
ça a démarré sur
des menaces sur les réseaux.
Et donc c'est grave. Mais donc c'est grave, et ce message-là, il doit passer. Et, vous savez, quand il y a que la peur de la sanction, effectivement, qui remplace les consciences défaillantes. Oui. Si on veut éviter de finir dans la barbarie.
Mais en même temps,
on ne peut pas rendre la justice en faisant des exemples.
Non.
On juge au cas par cas. Bien Moi, sûr. Je suis avocat. Je ne demanderai jamais autre chose que ça.
Pour briser l'impunité que représente l'écran. Je suis derrière mon smartphone.
Oui.
Je pense que personne viendra me chercher.
Maintenant, le message est passé. Et si ça suffit pas, effectivement, il faudra que les sanctions augmentent.
Parlons quand même de Mila. Je rappelle que les auditeurs l'avaient désigné. Donc, les auditeurs des RMC et des Grandes Gueules la soutenaient depuis longtemps parce qu'elle a été désignée Grande Gueule de l'année 2020. Moi, je trouve que cette jeune fille est assez admirable. Et même dans son parcours, parce que j'écoute beaucoup ce qu'elle raconte, elle a évolué, c'est normal, hein, elle a 16 ans, 17 ans. Cette affaire est terrible, mais elle l'a fait mûrir d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit.
À grande vitesse.
Elle-même, dans la façon dont elle s'exprime, elle dit qu'elle a une responsabilité maintenant. C'est ça qui est assez fort aussi.
Ah, mais moi je la trouve, elle me touche beaucoup. Elle est assez extraordinaire et elle a un cran que j'ai rarement rencontré. Rarement. Elle a une espèce d'intégrité, alors c'est ce que j'ai plaidé. Et paradoxalement, elle a un côté christique. Et c'est pas étonnant parce que je trouve que aujourd'hui ce sont souvent les laïcs qui ont un côté christique. C'est étonnant. Hein.
Elle n'a pas peur.
On y pense.
Elle peut pas ne pas y penser. Sa situation sécuritaire est quand même très complexe.
C'est quoi son avenir?
Je ne sais pas. Il faut y travailler.
Elle y travaille, elle y pense.
Bien sûr qu'elle y pense.
Ouais.
Bien sûr qu'elle y pense. Ouais. Mais tout est compliqué. L'armée considère qu'elle ne pouvait pas la protéger dans un internat militaire. Alors qui va l'employer? Qui va lui donner un stage?
Ah oui, elle ne peut pas même dans un internat militaire.
On l'a renvoyée chez elle.
Ouais, c'est fou ça.
Qui va être content que ses enfants la fréquentent? Va pas avoir peur.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de lâcheté alors de tout le monde?
Oui, après je peux comprendre. Mais on a pourri sa vie, oui, ça c'est certain. C'est un petit message qui s'ajoute à un petit message qui s'ajoute à un autre envoyé comme ça. Et après ils disent tous. Une heure après, on n'y pensait plus. En fait, quand on va les chercher, ils savent même plus pourquoi.
Ils disent même pourquoi moi, parce que moi, finalement, je suis rien.
Ouais, en fait, ils ont oublié, puis ils ne voient pas. Mais comment on fait dans son cerveau pour dire à quelqu'un, je vais te lapider et je vais laisser ton corps pourrir, et puis plus y penser 5 minutes plus tard.
C'est pour ça.
Et on ne se comprend plus, en fait.
Oui, c'est pour ça que je faisais appel, alors, effectivement, à cette question. Quand je dis génération, ce n'est pas une tranche d'âge. C'est des gens qui sont complètement baignés dans cette espèce de bain particulier du réseau social, et je pense que aux États-Unis on a de grands modèles de ça, c'est-à-dire où la parole finalement sur le réseau social perd de la valeur. Et quand le président, je crois qu'il dit quand vous insultez quelqu'un sur, est-ce que vous insulteriez de la même manière dans la rue en la traitant de la même manière? En fait, ce rapport-là, c'est marrant parce que c'est l'écrit qui d'un seul coup a pris moins de valeur que l'oralité, alors qu'à la base c'est l'inverse.
Non, mais là il y a un vrai danger civilisationnel.
Absolument. C'est un basculement.
C'est-à-dire
que les mots, c'est pas que les jeunes, Étienne, contrairement à ce que
non,
tu
mais
dis.
Je sais pas justement. Pas je dis que c'est une
moi,
génération
personne de moins de 30 ans.
De gens qui
dépend des sujets entre 60 et 80.
De gens qui écrivent
comment je vais mourir, comment ma femme sera violée, comment on égorgera mes gosses.
Oui,
et quand tu les as à la barre du tribunal, le mec il a 75 balais, tu dis mais comment c'est possible? Mais non, bah non, j'ai pas vu le mal. Ah, t'as pas vu le mal.
Donc là, c'est plus une question d'éducation, parce que 75 ans, ça
fait longtemps. Il y a autre chose qui se passe. C'est pas sur la jeunesse.
Mais c'est quoi? C'est le lâcher prise.
C'est le maniement de l'appareil. C'est
pris. Peut-être des traditions, contrairement à ce que tu penses. On en a besoin des traditions.
Oui, mais c'est peut-être aussi, c'est que des gens qui pensaient la même chose avant. On va pas dire que tout d'un coup,
ils le disaient pas. Oui.
Et les réseaux sociaux sont arrivés.
Oui, mais le fait de ne pas le dire, ça changeait les choses.
C'est ça. Mais voilà.
Exactement. On le pensait, mais on le disait pas.
Les réseaux sociaux sont devenus un exutoire. Et on l'a bien vu déjà dans la crise des Gilets jaunes, toute la colère. Parfois légitime qu'on pouvait avoir contre des mesures gouvernementales ou des non-mesures gouvernementales, on voyait quand même de façon exponentielle une colère partir sur les réseaux sociaux qui s'est après transcrit dans la rue, malheureusement. Et finalement, Mila, aujourd'hui, c'est encore un nouvel étage de la fusée. C'est cette incapacité à pouvoir exprimer une parole différente, même si elle est légale. Mais parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'est pas dans la doxa, parce qu'elle n'est pas dans le bien commun... on ne peut plus l'exprimer. Jusqu'où ça va aller? Moi, je pose la question. Jusqu'où ça va aller?
Ça fait peur.
Je vous donne des exemples. Un sketch des Inconnus dans les années 90, vous ne pouvez plus le diffuser à la télé maintenant. Quasiment. Lorsque vous réécoutez des sketchs de Thierry Leluron, vous seriez programmateur, peut-être que vous auriez du mal à le balancer à 21h à l'antenne. Donc moi, j'invite vraiment les gens à faire attention. Et Mila, finalement, elle est cette figure de proue d'un appel, évidemment, au-delà du drame personnel qui lui arrive. Mais c'est un appel à la vigilance collective, quoi. On n'a plus pouvoir rien dire. Et nous avons la loi pour nous protéger.
Mais qui est un paradoxe, puisque le réseau social a permis justement, au contraire, d'ouvrir la liberté, permettait à tout le monde de s'exprimer dans la liberté d'expression. C'était au contraire, au départ, plutôt une bonne chose, parce que tout le monde pouvait prendre la parole.
Mais ce n'est qu'un instrument. Ouais. Derrière, il y a des êtres humains avec leur part d'ombre et leur part de lumière. Ouais. Et si on régule pas ça, c'est la sauvagerie qui s'exprime, c'est la foule. Il n'y a rien de plus terrible que la foule.
Ouais. Merci Richard Malka d'être venu dans les grandes gueules.
Beaucoup et bravo.